Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Acte 1er. Terrasse d'un rempart, dominée par une terrasse et dominant d'autres remparts. Scène 1.
La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre.
Je te tiens à Paris, Andromaque.
Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra.
On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu.
Oui, si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre, il arrive. Tu entends assez ses trompettes. En 7 minutes, il entre dans la ville victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière.
C'était la dernière. La suivante l'attend.
Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable?
Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises. Celle des hommes et celle des éléments.
Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris.
Oh, il s'agit bien d'eux.
Il s'agit de quoi?
Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives?
Je ne sais pas ce qu'est le destin.
Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable.
Garde à vous, mauvaise troupe! Vous écoutez les yeux ont des oreilles sur Transistor, bande de bleus, et ça va barder pour vos matricules. Général Caroline à l'antenne, qui reprend le commandement de ce bataillon après le putsch orchestré à mon égard à l'épisode précédent. Les officiers responsables ont été traduits en conseil de guerre et seront fusillés à l'aube. Engagez-vous, rengagez-vous dans la glorieuse armée de Transistor, sous peine de vous prendre mon pied bien profond dans le... Quoi? Vous êtes sûr? Ah bon. Messieurs, dames, on m'informe à l'instant que le plan d'attaque a été changé. Le thème de cet 11e épisode serait le salon des déserteurs. Faites l'amour, pas la guerre, couronne de fleurs, colombes, légumes bio, tout ça, tout ça. N'empêche que les objecteurs de conscience, c'est beaucoup moins radiophonique que le vocabulaire militaire. Pour sûr, Boris Vian et cette merveilleuse virgule d'ouverture, le déserteur était pour le moins frappant. Mais moi, je suis censée faire quoi, allumer un bédo? Bref. À l'instant, sur Transistor, l'incipit de « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Jean Giraudoux, où Camille joue les Cassandres face à mon Andromaque incrédule. Ainsi le veut sa malédiction. Et tout cela à cause d'un berger et d'une poire. La pièce datant de 1935, je vous laisse deviner quelle guerre vient après la der des der. Thème étrangement d'actualité en ce printemps 2014, alors que l'Union soviétique, pardon, la Russie, tend son long bras vers l'Europe de l'Est et que le reste du monde se ronge des phalanges. Mais parlons d'une actualité plus réjouissante. Comme vous le savez déjà, j'espère, aura lieu le 12 avril 2014 à l'ENS d'Ulm, la 3e édition de la Journée de la Radio, où se rendra notre fine équipe de littéraires pour un épisode spécial et en live de l'IO. Camille et Willem ne seront donc fusillés qu'après cette date. Thème, la radio en guerre, parce que la guerre c'est sexy. En tout cas, si vous êtes un de ces fous d'historiens, et bienvenue d'ailleurs à notre invitée du jour, Marie, respo-com de Transistor et co-présentatrice dans Spectateur. Donc vraiment quelqu'un de bien en dehors de son appartenance à cette section bizarre de gens qui va prendre des dates. Blah. Aujourd'hui, c'est donc un teaser pour la journée de la radio, l'occasion de creuser un peu sur le thème très fertile de littérature et guerre, pour ne pas être trop frustrés par les limites de l'émission le jour J, de laisser leur place aux textes qui ont presque été sélectionnés pour le live, et l'occasion pour moi de faire un script proprement irrévérencieux. Pas sûr d'avoir beaucoup de courage en live et face à un parterre d'historiens, invités et ulmites, mais je ferai de mon mieux. Et si ce salon des refusés est devenu le salon des déserteurs, est-ce vraiment si surprenant? Bon, par contre, les bonbons pacifiques, c'est emmerdant comme la pluie, donc j'ai rempli notre mascotte Figaro, le crâne en papier mâché, de têtes brûlées goût coca. Des bonbons qui créent la 3e guerre mondiale dans votre bouche, c'est pas pour les poules mouillées. Donc, je récapitule. Le 12 avril, la guerre sera sexy. Aujourd'hui, la guerre n'est ni sexy ni glorieuse. Pour citer le dramaturge Luigi Pirandello, il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête, il faut l'être toujours. Voilà pourquoi ma question du jour porte sur les petits combats du quotidien. Aujourd'hui, on se tape sur l'épaule et on se félicite. Racontez-moi une petite victoire pacifiste contre vous-même, contre la loi de Murphy ou contre les emmerdeurs, pardon, les êtres humains agaçants qu'on côtoie au jour le jour. Un petit rien qui rend fier et qui éclaire la journée. Pour vous donner un exemple, tous les lundis, je me fais violence pour aller à mon cours de karaté. J'aime bien le karaté, c'est cool et tout. Mais il y a quelque chose en moi qui tend à l'inaction la plus totale. Donc je suis obligée de me battre. Et à chaque fois que je sors du karaté en sueur, avec des courbatures et tout ça, je suis fière de moi. Will,
Alors moi, c'est tous les jours que je suis une petite victoire, c'est-à-dire que tous les matins, j'arrive à me lever. Je pense que ma nature profonde est celle d'un paresseux. Et donc, c'est-à-dire que pour moi, se lever avant midi, c'est trop tôt. Et comme en général, toujours, je suis obligée de me lever avant midi, c'est une victoire tous les jours de me lever.
Amen. Camille ?
Une victoire qui est forcément très habituelle, mais c'est quand tu es confronté à un membre, par exemple, de l'administration, de n'importe quelle administration, qui ne veut pas, et que tu arrives à déjouer sa stratégie de destruction de ton projet par une extrême politesse. Et je trouve que c'est une manière assez pacifiste de régler les conflits, même s'il faut s'écraser un peu et perdre beaucoup de respect pour soi-même.
C'est bien. Marie ?
Alors moi, ma petite victoire, c'est d'arriver à dompter le mobilier qu'il y a chez moi, et en particulier d'arriver à dompter mon four micro-ondes, qui a la merveilleuse fonction de faire four. Et si on arrive à l'apprivoiser, à le caresser dans le bon sens du poil, à régler le temps de cuisson correctement, on peut faire des putains de petites tartes aux pralines, et ça, c'est un bonheur absolu.
Romain ?
Alors moi, c'est une victoire civique. Donc le printemps est revenu, j'ai repris mon vélo et je m'efforce tous les jours de défendre vaillamment la piste cyclable des bords du Rhône contre les agresseurs. Et en l'occurrence, hier, deux cheftaines de centre aéré comptent leurs enfants sur la piste cyclable. Imaginez deux troupeaux d'enfants habillés de gilets jaunes fluo comptés par leur
scandale.
Responsable. Scandale. Donc je me suis mis à crier « Mais c'est une piste cyclable ici, il faut aller les compter là-bas et tout !» Et je me suis fait insulter.
En première ligne de la résistance, nous lançons l'assaut avec la féministe Monique Wittig et cet extrait de Virgile Non, réécriture féministe radicale de la Divine Comédie de Dante. L'enfer est le San Francisco moderne où souffle un vent trop fort. Les limbes, les bars lesbiens, le paradis, un lieu à inventer, à créer aux dépens de la langue de l'ennemi. Le personnage principal, Wittig, a pour guide Manastabal et dans le chapitre 30, elles arrivent à la foire d'empoigne. Dans cette partie de l'enfer, les adversaires, c'est-à-dire les mâles sexistes, écartèlent des âmes damnées, c'est-à-dire des femmes soumises dans la violence la plus extrême. Wittig ne peut rester de marbre et ainsi commence la guerre des sexes. Alors, c'est sûr que dans le pacifisme, ça cadre pas trop, puisque Wittig est armé d'un pistolet laser. Mais bon, lutte contre l'ordre établi, l'injustice, tout ça. Et puis zut, c'est moi le chef, c'est moi qui dis ce qui est dans le sujet. Et c'est Willem qui pousse les portes de cet enfer hostile au mal, comme quoi c'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on manque de courage.
Un rayon laser est supérieur en efficacité à une épée, mais aussi à un revolver, à un fusil et même à une mitraillette. Dans ce cas précis, il me permet de les toucher un à un sans atteindre leur victime, et à une vitesse telle que la salle n'a pas le temps de réagir. Il est vrai que la colère me donne des ailes, et que la vitesse et l'imprévisibilité de mes mouvements empêchent que je devienne une cible. Ils sont pétrifiés par la terreur, et pas un ne songe à me tirer dessus. Qu'avec mon rayon laser je fasse figure d'ange exterminateur au jugement dernier est de peu de conséquences ici, car si je méfie des symboles, je crois à la lettre, et en Junon, j'aplatis tout ce qu'il y a d'adversaires en une minute ou deux, battant ainsi un record de prouesse dans ce genre de récit. Et comme ma tâche est en train de s'achever, une grande jubilation me vient, et j'entame un éloge à la gloire de la technologie moderne, qui donne un tel pouvoir de feu à une personne contre beaucoup d'autres. Manastabal, mon guide, interrompant mon panégyrique, me montre les objets du sauvetage. La majorité est en piteux état. Quelques-unes ont la carotide tranchée d'un coup de rasoir. Certaines ont perdu toutes leurs dents. À d'autres, les membres pendent, inertes. Il y en a qui sont évanouis. Je regrette en tout cas de n'avoir pas pris mes boules caisses pour atténuer le son des gémissements. Si je pouvais choisir, je me contenterais d'écouter les imprécations qui galvanisent, car, pour les autres bruits, ils coupent les jambes et mènent au bord de la défaillance musculaire. Manastabal, mon guide, organise les secours avec celles qui sont sorties indemnes de la foire d'empoigne. Il faut tout d'abord trier les vivantes et leur porter secours. Des cadavres, on ne disposera qu'ensuite. Malgré le tumulte ambiant, j'arrête une passante pour lui demander ce qu'il en est de la foire d'empoigne, où le parfum fétide du sang remplace l'odeur de fleurs d'oranger des fouasses, telle que je me la rappelle d'anciennes foires.
Je l'aime mourir, elle a dû faire toutes les guerres, pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi.
Merci Will d'avoir ouvert le feu avec un texte aussi insolite que d'habitude. En virgule, Francis Cabrel l'aime à mourir. Même si dans le cas de Monique Wittig, la cause du décès serait probablement pas un cœur brisé, plutôt un coup de pistolet laser dans la tête. Pardon, c'est l'âge de tirer sur les féministes. Et il faut bien dire que la guerre est un monde machiste. Notre marche forcée s'éloigne à présent des mythes classiques, mais encore pour venir se heurter au mur d'une cité assiégée. Et si, par un soir d'hiver, un voyageur ne faisait pas du Italo Calvino, mais débarquait dans Sarajevo dévasté par 20 mois de siège. Dans son roman « État de siège », Juan Guiotisolo ressuscite le spectre des horreurs commises au Kosovo, une guerre européenne pas si lointaine et sans gloire aucune. Voici la description de Sarajevo, traduite par Aline Schulman, lue par Camille.
Le plastique translucide tendu sur les vitres le coupait du monde extérieur. Il s'approcha et découvrit le trou. En y appliquant un œil, il pouvait voir tout l'espace qui s'étendait de l'avenue des Francs-Tireurs jusqu'aux immeubles criblés d'obus de l'ancienne artère commerçante. La lumière, bien qu'atténuée par la brume, dévoilait peu à peu le visage torturé de la ville. Il resta là, l'œil écarquillé, comme si le reste de son corps ne comptait plus, observant le champ visuel qui s'offrait à lui à travers le Judas avec l'avidité d'un condamné à mort qui boit ses derniers instants à pleine gorgée. Adouci par les rigueurs de l'hiver, le paysage s'imposait à lui avec la violence abrupte d'un rêve, tourmenté, brumeux, irréel. Moignons et blessures recouverts d'un vaste linceul miséricordieux. Détresse, solitude, nudité, saisissant panorama de ruines. Squelettes d'immeubles, voitures démantelées, tramways calcinés, kiosques aux armatures fondues, béances, ferrailles, résidus pathétiques des ravages du feu. La neige, des flocons de neige par milliers, fendait l'air de ses rafales dansantes comme pour dissimuler sous tant d'innocence l'énormité du crime. Tapis charitable offert aux victimes ou camouflage, complice de l'agresseur. Toute la longueur de l'avenue habillée de neige, circulation inexistante, quelques silhouettes fantomatiques et fuyantes, et les blindés, blancs eux aussi, de la force internationale de médiation. Son regard lui renvoyait sa propre immatérialité, blancheur et dévastation. À l'abri des édifices grisâtres et austères de l'époque autrichienne, évoluaient des personnages transis, un passant à bout de force poussait une charrette à bras. Un vieil homme semblait pointer un doigt accusateur sur les assiégeants des collines, immobile, comme la statue du commandeur.
Merci Camille. Si vous remarquez une ressemblance avec le Xenakis passé dans notre deuxième épisode, il a effectivement influencé l'œuvre de Max Richter. Le titre de cet opus était bien sûr Sarajevo. Avançons dans le temps, et je le crains dans une veine tout aussi déprimante. Dans un futur indéterminé, l'Océanie, l'Eurasie et l'Asie du Sud-Est, se livre ce qui est probablement la guerre de science-fiction la plus ennuyeuse de toute l'histoire littéraire. Bienvenue dans 1984, le fameux roman d'anticipation de George Orwell, où la guerre perpétuelle joue un rôle clé dans le contrôle absolu que Big Brother exerce sur la population. Les actes de rébellion de Winston Smith, membre du parti, ont escalé de l'achat d'un carnet à une relation sexuelle clandestine et enfin à une prise de contact avec le mystérieux O'Brien qui lui a remis le livre interdit écrit par Goldstein. En voici la fin du chapitre 3, donc du livre interdit, intitulé « La guerre, c'est la paix ». Paradoxe traduit par Amélie Audiberti et lu par moi-même. La guerre donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants, dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais, bien qu'irréelle, elle n'en est pas sans signification. Elle dévore le surplus de produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et par conséquent de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres, et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot « guerre » lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. L'effet aurait été exactement le même si les trois super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, et la signification profonde du slogan du parti. La guerre, c'est la paix. À l'instant, The Cranberries accuse les zombies responsables des guerres et massacres, et notamment des Pâques sanglantes de 1916. Bien sûr, ce qui vaut pour l'Irlande vaut aussi pour les masses abruties de conformité d'Orwell et d'autres conflits encore. Bon, le but, c'est pas non plus de vous faire déprimer dans la boue de l'indignité tout au long de l'émission. Donc un petit coup de fierté patriotique pour un célèbre lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry. Dans Pilote de guerre, d'abord publié aux États-Unis puis lu sous le manteau malgré la censure allemande, il raconte une mission effectuée dans le ciel du nord de la France avec son bloc MB-174, l'occasion de réfléchir à la guerre et à l'homme. Camille est aux commandes.
Nous opposons à l'ennemi un homme contre trois, un avion contre 10 ou 20, et depuis Dunkerque, un tank contre 100. Nous n'avons pas le loisir de méditer sur le passé. Nous assistons au présent. Le présent est tel. Aucun sacrifice, jamais, nulle part, n'est susceptible de ralentir l'avance allemande. Aussi règne-t-il du sommet à la base des hiérarchies civiles et militaires, du plombier au ministre, du soldat au général, une sorte de mauvaise conscience qui ne sait ni n'ose se formuler. Le sacrifice perd toute grandeur s'il n'est plus qu'une parodie ou un suicide. Il est beau de se sacrifier. Quelques-uns meurent pour que les autres soient sauvés. On fait la part du feu dans l'incendie. On lutte, jusqu'à la mort, dans le camp retranché, pour donner leur temps aux sauveteurs. Oui, mais le feu, quoi qu'on fasse, prendra toutes les parts. Mais il n'est point de camp où se retrancher. Mais il n'est point à espérer de sauveteurs. Et ceux pour lesquels on combat, pour lesquels on prétend combattre, il semble que, tout simplement, on provoque leur assassinat. Car l'avion, qui écrase les villes à l'arrière, a changé la guerre. J'entendrai des étrangers reprocher plus tard à la France les quelques ponts qui n'auront pas sauté, les quelques villages qui n'auront pas brûlé, et les hommes qui ne seront pas morts. Mais c'est le contraire. C'est exactement le contraire qui me frappe si fort. C'est notre immense bonne volonté à nous boucher les yeux et les oreilles. C'est notre lutte désespérée contre l'évidence. Malgré que rien ne puisse servir à rien, nous faisons sauter les ponts quand même pour jouer le jeu. Nous brûlons de vrais villages pour jouer le jeu. C'est pour jouer le jeu que nos hommes meurent. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.